dirait des nouvelles.
Amélie Beaucourt.
Baptiste Antoine.
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. C'est un météore qui est entré à toute vitesse dans l'atmosphère musicale de la scène R&B. Une rose noire au masculin, propulsée, entêtée en 3 ans seulement. Mais ses épines ne piquent pas, rassurez-vous. Ou peut-être seulement quand c'est lui qui est piqué. Dans ce nouvel EP, c'est de ça dont il est question justement. Rétablir les connexions perdues, trouver le code d'accès à tous ces cœurs écorchés. Des cœurs qu'il vient pirater avec son clavier, ses mots et son flow. Hacker de Drix, c'est sur le label Rec 118 et vous m'en direz des nouvelles.
Taliban mon blas, tu t'es donné quand t'avais fouille. Maintenant je suis sur mes gardes, car vous jugez que mes défauts. Je dors sur qu'une oreille, car j'ai des couteaux dans le dos. Rien qu'on monte en grade, ils nous envient donc ils nous maudissent. En haut de la tour, ça canarde, c'est les 4000 qui passent le salam. J'entends des échos sur le bénin, ce soir c'est un tour sur Paname. Arrogance et la banane, dans la chepeau, toujours la scalape. En cas de dépens, on sort des salades, de l'avocat et le radis. Toujours dans les temps, j'ai choisi mon camp. J'ai dansé le coupé, pas vendu la blanche. Dorénavant, je vais de l'avant. Le négro est soigné, toujours élégant. Toujours dans les temps, j'ai choisi mon camp. J'ai dansé le coupé, pas vendu la blanche. Dorénavant, je vais de l'avant. Le négro est soigné, toujours élégant. Je fais la fortune matin, mais ça va aller. J'ai attrapé la plus bonne de tes copines, je suis laissé aller. Je dois faire gonfler la salsam, tu dans la zig, tu peux plus m'arrêter. Et si jamais ça attire, tu peux être sûr que tu vas aller. Et j'ai vu ta guerre sur mes
côtés. Bonjour Drix. Alors sur la pochette de votre nouvel EP, on vous voit quasi tout en noir avec du cuir jusqu'au cou comme si vous portiez une armure. Lunettes de soleil, la tête haute, le menton bien relevé qui regarde vers le lointain. Et tout ça sur une sorte de ciel sombre avec des nuées de violet, de bleu, un côté interstellaire un petit peu. Comme si vous étiez un envoyé du cyberespace sur la Terre. Est-ce que c'est un clin d'œil au Drix Météore d'avant, votre ancien nom de scène ?
Totalement.
Et ça vient d'où d'ailleurs, Drix ? Pourquoi vous avez changé ?
Désolé. Parce qu'en fait, c'est j'ai voulu faire un jeu de mots avec mon prénom que mon père m'a donné, son âme, Chris. Donc j'ai enlevé le C, j'ai mis un D, et après j'ai rajouté un K et ça a fait Drix. Je trouvais que Chris, en tant que nom de scène, c'était trop commun.
Et supprimer le météore ?
Météore, c'est vraiment parce que je voulais vraiment marquer le coup et montrer qu'on est en train de franchir quelque chose, parce que là, c'était quand je dansais, et là, maintenant, en tant que chanteur, bah, j'ai voulu tout simplement switcher.
Et justement, vous venez de l'univers de la danse. J'ai même lu que vous aviez dansé avec le chanteur et danseur franco-congolais Jesse Matador, c'est vrai ?
C'est vrai.
Comment ça se passait à cette époque-là ? Qu'est-ce que vous faisiez ?
J'étais danseur uniquement, mais c'était une époque très, 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 très enrichissante. Pourquoi ? Parce que j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 18 ans, ça m'a permis de voyager, de faire quasiment le tour du monde avec lui, en tournée en tant que danseur. Et c'est une époque qui m'a beaucoup marqué, parce que j'avais pas conscience que c'était la première étape avant d'être aujourd'hui artiste, danseur et chanteur. Donc forcément on se rappelle de tout l'univers, on va dire, professionnel, parce que c'était la première fois pour moi que je rentrais dans cet univers musical, concrètement. Et donc j'en retiens beaucoup de bons souvenirs.
Ça vous manque encore aujourd'hui ? Parce qu'on vous voit toujours danser dans vos clips. Et tous les morceaux que vous faites sont faits pour danser. Donc on se dit que ça doit être...
C'est en fait, en tant que Congolais, en fait, on est né avec ça quasiment. En fait, nous... On chante, on danse, on pleure avec de la musique. La musique, c'est limite inné au Congo. On vit musique, on dort musique. Donc c'est quelque chose, on va dire, qui me paraît logique pour moi dans ma vie, parce que c'est une grande partie de ma vie, la musique. Donc pour moi, aujourd'hui, de vivre de ma passion, forcément, je peux pas y retrouver un manque, parce que c'est juste une continuité, on va dire, depuis que je suis né, en fait. J'ai été bercé par ça, et aujourd'hui, je suis très content d'en vivre.
Qu'est-ce que vous écoutiez, justement, chez vous, petit ?
J'ai écouté Franco, j'ai écouté des Rumba, des Seben, des Kofi, je peux en citer énormément. C'est des grands artistes congolais, et on avait un petit peu pas le choix, hein, parce que c'est les parents qui écoutaient ça à la maison. Donc j'ai écouté énormément de musique congolaise et j'en écoute encore aujourd'hui. Et après, bon, voilà, j'écoute beaucoup de musique française, bien évidemment, et des sons américains. J'aime beaucoup les sons américains aussi.
Quand on tend l'oreille au-delà du texte dans vos chansons, on se rend compte que les rythmes, les percussions notamment, vous allez chercher dans énormément de registres des musiques africaines, caribéennes. On entend même des influences de compas sur certains morceaux de cet album. Comment est-ce que vous avez travaillé ces rythmes et quelles sont les influences qui vous nourrissent en dehors de celles de votre berceau familial?
Principalement la musique, parce qu'en tant que mélomane, En tant qu'artiste, j'écoute énormément de musique. Je m'intéresse beaucoup aux musiques d'autres cultures. J'aime beaucoup m'intéresser, que ce soit londonienne ou hollandais ou américaine ou Amérique latine ou portugaise. J'écoute énormément de musique et quand il y a quelque chose qui me marque, je me trompe rarement quand je me dis ça c'est fort, c'est lourd, je pense que je peux faire quelque chose avec parce que ça me parle. Quand ça me prend au cœur, bah directement je suis pas quelqu'un qui suit forcément la tendance, mais quand ça me touche, je me dis il y a moyen de faire quelque chose là-dessus et directement je me lance moi aussi je me dis je peux le faire, bon pourquoi pas, et voilà pourquoi je me suis retrouvé à faire plusieurs styles variés de musique.
Et le chant donc qui vous est arrivé plus tard, mm-hmm. Où est-ce que vous l'avez appris?
Je pense en écoutant les artistes que j'ai cités tout à l'heure, on se met à chantonner un petit peu dans sa douche, on marche,
ça
on chante
vraiment,
un
moi
peu.
Je pense que je peux pas faire une carrière juste en chantant sous la douche.
On sait pas, il y a un début à tout, mais ouais, c'est en écoutant énormément de musique, en chantant, et après il y a les amis qui disent ouais mais on dirait tu peux te lancer, en vérité t'y crois pas trop, et après avec du sérieux et du travail, bon, on voit qu'on peut y arriver, et c'est en vrai c'est à la portée de beaucoup de personnes.
Donc autodidacte.
Ouais, c'est ça, autodidacte, exactement.
De ton cœur, il faut que je trouve la faille. Désolé, ma belle, je veux t'embêter. Je vais t'avoir, je vais gagner la bataille. Tu seras madame qui t'a m'endetté. Ronisia, tu le sais que je vais pas te lâcher. Jamais plus sans toi, je l'ai juré. Je suis dangereux, tu me regardes avec passion. Un moment, faudra passer à l'action. C'est qui ce fils de qui t'a blessé? Si ça va pas, tu peux m'en parler. T'as trop donné, au final t'es lassé. Fais-moi confiance, je serai ton
Vas-y,
adieu.
Vas-y, fais-moi kiffer en balle. Mets-moi sur un piédestal. Moi je veux briller comme une étoile. Prouve-moi que t'es pas comme tous ces balles.
Je sais qu'en amour t'as pris des coups. Qui pourra lutter contre nous? Je suis pas l'énologue, dis-moi tout. On t'a fait du sale, tu te méfies, j'avoue.
Tic-tac, tic-tac,
essaie encore.
Tic-tac, tic-tac. J'ai pas le temps pour ça, j'suis pressé. C'est pas compliqué, j'ai plus d'énergie à gaspiller. J'suis pas psychopathe, ouais. T'es un mauvais jeu, ça se voit. J't'ai déjà vu faire, bah ouais. T'en auras plus des comme moi. Oh, à ce qui paraît, tu veux mettre la bague au doigt. Audrey, que ça arrête de jouer ton baratin.
Faire kiffer en balle, je te mettrai sur un piédestal. Tu vas briller comme une étoile. Je te prouverai que je suis pas comme ces bâches. Quand amour t'a pris des coups, qui pourra lutter contre nous? Je suis pas l'énologue, dis-moi tout. On t'a fait du sale, tu te méfies, j'avoue.
Tic-tac, tic-tac, essaie encore. Tic-tac, tic-tac, recommence encore. Tic-tac, tic-tac, essaie encore. Tic-tac, tic-tac.
Tic Tac, Drix et Ronisia, étoile montante elle aussi de la scène R&B actuelle. Cette chanson, Drix, elle raconte l'histoire d'un homme qui essaie de convaincre une femme de s'abandonner à la relation, de lui faire confiance. Il lui promet monts et merveilles, il lui tend la main, et elle a du mal. Ça, c'est un truc qui revient souvent dans les relations amoureuses, peut-être encore plus dans notre génération, la peur de l'engagement. Alors on se drague, on se fréquente, et quand on veut aller un poil plus loin, quand on veut s'engager, là ça coince. Pourquoi?
C'est la question que tout le monde se pose, c'est pour ça que j'ai appelé d'ailleurs le EP Hacker.
Avec le détail sur l'orthographe, on ne l'a pas précisé, mais à cœur, le cœur comme l'organe qu'on a ici et qui bat.
Exactement. C'est la question que tout le monde se pose parce que même en tant j'aime le dire, j'aime le chanter, mais la réalité c'est que au final je peux guérir avec mes musiques, je peux guérir avec des mots, avec des phrases, mais quand après, si demain on devrait me retourner la question. Et moi, je devrais me mettre à la place.
À la place de Ronisia, ici.
À la place de Ronisia, je pense que, en vérité,
bah oui, on comprend ici, elle a pris des coups, elle se méfie, elle n'a plus du tout confiance. Et vous lui demandez de replonger. Comment vous voulez qu'elle accepte?
Bah, si on. Aimer, qu'est-ce que ça veut dire aimer en vrai? Si on n'ose pas, si on franchit pas le cap parce qu'on a peur. Finalement, c'est un sentiment qui va rester personnel et non partagé. Et en vrai, bah, il faut oser aimer. Ça fait avoir peur d'aimer, ça fait partie d'aimer en fait.
Et qu'est-ce qui est le plus compliqué à votre avis, c'est réussir à aimer quand on a eu mal ou se laisser aimer à nouveau?
Je pense que les deux, ça se vaut en fait. C'est dur parce que il y en a qui aiment recevoir uniquement. Il y en a qui aiment partager, mais en général, pour qu'une relation soit bien équilibrée, on va dire, il faut que les deux puissent s'abandonner à leur relation et non une personne qui fait uniquement parce qu'on peut se lasser, on peut être fatigué, on peut se dire mais ça va que dans un sens et pas dans un autre. Donc en vérité, ça se vaut les deux, ça se vaut. Hein. C'est au dépend de chacun, je trouve.
Il faut aussi qu'ils soient sur le même timing parce que je pense que le titre, donc Tic Tac, ça fait sûrement aussi référence au temps, au fait que on n'en est jamais au même stade avec l'autre. Il y a quelqu'un qui est forcément prêt à s'investir et l'autre pas du tout. Comment est-ce qu'on gère ça? On attend, on donne de son temps, de la patience, on presse l'autre.
C'est ça.
C'est vachement compliqué.
Ouais, c'est ça. C'est en fait le truc, c'est que il faut. Pour moi, dans une relation, on est censé se compléter. Combler les points faibles de l'autre et aussi les qualités de l'autre. Ça veut dire qu'il y a peut-être une personne des deux qui peut être plus patient parce que on peut être de nature patient, une autre qui peut être ou un autre qui peut être impatient par exemple, et du coup bah c'est une éducation. Du coup, bah, celui qui est plus patient, bah, il comprend que son partenaire est un peu moins patient. Et vice versa, en vérité. C'est, il faut apprendre à se connaître avec le temps aussi. Voilà pourquoi on a appelé Tic Tac. Apprendre à se connaître, prendre le temps. Et on n'est pas tous faits pour tout le temps être ensemble. C'est-à-dire, du coup, il faut trouver la bonne personne qui peut combler, justement, les défauts. Apprendre à se connaître soi-même, déjà. Et trouver la personne qui peut, bah, justement, combler les défauts qu'on voit qu'on n'a pas forcément et le retrouver chez son partenaire.
Alors quand on écoute les histoires d'amour de nos parents, des générations qui sont plus âgées que les nôtres, à travers le cinéma, à travers les livres, etc., tous les exemples qu'on en a, on a l'impression qu'avant c'était beaucoup plus binaire. On s'aime bien, on se met ensemble, point. On est célibataire ou on l'est pas. Alors que depuis quelques années, et je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus, les jeunes générations, elles ont réussi à inventer tout un système, tout un vocabulaire pour décortiquer, pour hiérarchiser les degrés de sentiment, d'implication dans une relation. Le couple, sans parler du mariage, etc., c'est l'étape ultime, mais on a créé plein d'étapes en tout, comme des marches d'escalier. Et l'une d'elles, c'est même le titre de la prochaine chanson qu'on va écouter, c'est « Le plan ». C'est quoi un plan, Rix?
Alors le plan, justement, je pense que ce titre, il résume bien le EP. C'est, on a l'habitude maintenant, c'est exactement ça, de détailler et de mettre plein de manières et plein de procédures. Moi, j'aime beaucoup dire que quand on était jeune, par exemple en maternelle, t'avais une amoureuse ou un amoureux et tu te retrouvais... T'allais au parc où t'étais sur un banc et t'étais content. Tu t'attendais à rien d'autre que ça pendant la récréation. T'étais assis, t'étais juste content d'être avec la personne que t'aimes et c'est tout. Parce que tu étais un peu innocent et tu connaissais pas forcément. En grandissant en apprenant de nos aînés, on s'est retrouvé dans un système de calcul de non, moi, si on remplit pas ça dans ma vie. Il faut en avoir des principes, c'est important. Mais si on se laisse pas aller, si on franchit pas ce step, on peut se retrouver seul pendant longtemps et ne pas profiter. Et avec le titre plan, c'est vraiment ce message que je voulais amener. C'est T'en fais pas, y a pas de plan, en vérité. T'es pas un coup d'un soir, t'es pas ceci, t'es pas cela, laisse-toi aller. Et c'est souvent le même message qui revient sous différentes formes, mais c'est, allez, passe le cap, laisse-toi vivre, laisse-toi aller. C'est, ça fait partie de la vie, faut profiter, en vérité. Si tu profites pas, bah, tu vas rester comme ça pendant longtemps, y aura personne pour te consoler, y aura personne pour toi, finalement. Et, laisse-toi aller, t'es pas tout ça, et t'inquiète, ça va le faire. C'est ça, ce message.
Tu sais, je viens du bend, monte à bord de la bend. T'inquiète, je vais tout gérer, ta vie, je vais colorer. Elle aime me questionner, comment je fais la monnaie. Moins temps, c'est me tuer de bord, pour l'instant, reste fort. J'ai tout ce qu'il te faut, j'ai les mots, s'il faut t'aider. Pourquoi me résister, avec le temps, tu vas céder. Mon regard sur toi, t'as gagné, tu t'es démarqué. Ce que t'as sur le cœur, dis-le-moi, tu peux me raconter. T'es différent des autres, reste avec toi, je gagne love. Du love toute la noche, du love toute la noche. T'es différent des je reste avec toi, je call love. Je love toute la noche, je love toute la noche.
Ne t'en fais pas ma belle, t'es bien plus qu'un plan. Oublions le reste sur la liste d'attente. Ta beauté me blesse et me perd souvent. J'ai très bien compris que ton cœur n'est pas à vendre. Ne t'en fais pas ma belle, t'es bien plus qu'un plan. Oublions le reste sur la liste d'attente. Ta beauté me blesse et me perd souvent. J'ai très bien compris que ton cœur n'est pas à vendre. T'es chargé comme un pétard. Quand tu fais ta mal à mes côtés, un flow impeccable. Je connais les termes. Sur Snap, t'ouvres à moitié. T'es une galère. Tu me fais péter un. Moi, je veux dinero. Faut j'augmente les zéros. Mon cœur pue le ghetto. Je veux pas vendre la gueule. Tu veux mes codes, contrôler mes pensées. J'en ai assez, faut que mes épaules tiennent là. Je sais que t'aimes toucher le ciel. Ascenseur émotionnel. De ton corps, je suis passionné. Notre amour est fusionnel. Yeah. Dis-moi que t'en veux encore. Avec toi mon bébé on va changer des temps. Ne t'en fais pas ma belle, t'es bien plus qu'un plan. Oublions le reste sur la liste d'attente. Ta beauté me blesse et me perd souvent. J'ai très bien compris que ton cœur n'est pas à vendre.
Ne t'en fais pas ma belle, t'es bien plus qu'un plan. Oublions le reste sur la liste d'attente. Ta beauté me blesse et me perd souvent. Et t'as très bien compris que mon cœur n'est pas à vendre. Je te le dis en toute humilité, je sais que je t'ai mérité, milité. J'ai dû méditer quand tu m'as hérité. M'éclipser, monter mon soleil, je voulais pas m'esquiver. M'étiqueter, oui c'est ce que t'as fait, au lieu de m'estimer. Mais malgré tout ça, je suis toujours là. Je sais pas si ça touche ou pas. Tu veux que je te le prouve ou pas. Je touche ton cœur, je touche pas du bois. On se sépare puis on se retrouve. On se revoit, on se redécouvre. Tout comme à la première fois, mais c'est peut-être la dernière fois. On s'aime plus ou moins quand on fait l'addition. On s'empoisonne, mais t'es mon addiction. Argent, baisou, crime, c'était mon ABC. Depuis que t'es dans ma tête, je frotte en fessier. Ma tête, t'es bien plus qu'un plan.
Drix en featuring avec Dadju, Franglish et Abou Debeng sur le morceau Plan. Alors c'est l'une des nombreuses collaborations qu'il y a sur cet album. Comment est-ce que vous choisissez les artistes avec qui vous voulez faire des morceaux?
C'est à la vibes. À la vibes, je regarde le mood, si le mood me correspond. Bon, mood et vibes. C'est pour tout. Je sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire, mais
quelle différence vous faites?
Je regarde si c'est des artistes qui peuvent correspondre au message que moi de base j'aime raconter, et c'est des artistes que j'écoute aussi. Et après ça franchement c'est beaucoup de feeling, beaucoup de relations avant tout humaines. Avant de, c'est pas juste on arrive au studio et voilà. Viens, et c'est pas juste business, en vrai. C'est, il y a toujours une histoire. On se connaît par l'intermédiaire de tel ou tel, ou j'apprécie l'artiste et je demande à mon label de mettre en relation mon manager ou mes équipes. Mais, voilà, c'est des gens que je connaissais déjà depuis longtemps et, bah, on s'est dit pourquoi pas sur ce projet-là de faire des titres ensemble.
Comment ça s'est passé avec eux trois? Alors, vous avez écrit, composé, mixé tout ça, tous ensemble?
Non. On l'a fait à distance parce que c'était difficile d'être au studio en même temps. Mm-hmm. Mais on était sans cesse connectés, on va dire, sur WhatsApp ou Snap. Ouais, écoute, j'ai fait ça, j'ai fait tel mélo, t'aimes bien, t'aimes pas. C'était comme si, en fait, on l'a fait ensemble plus ou moins. On n'était pas ensemble physiquement, mais on l'était à distance.
On vous retrouve aussi avec Brian MG sur un titre à moitié en anglais, à moitié en français. Et lui, en plus, Brian MG, il est néerlandophone en plus de ça. Mm-hmm. C'est important pour vous de mélanger toutes ces influences différentes au niveau de la langue?
Bien sûr. Parce que je trouve qu'on ne le fait pas assez. pour moi. Il n'y a pas assez de mix musical. Voilà, nous on a un vocabulaire qui est assez riche, mais les Néerlandais aussi, ils ont beaucoup de dialectes et etc. Et je me suis dit, bah, ça, tant que ça sonne bien en vérité et tant qu'on on sait où on va, ça peut le faire. On n'a pas besoin de mettre de barrières au niveau de la langue, et c'est important aussi de gagner du public extérieur et de montrer que nous aussi on peut se mélanger à leur musique et ça peut le faire totalement.
Alors une autre chanson où on entend plusieurs langues aussi, c'est la dernière de l'EP, celle qu'on va écouter aussi pour se quitter. C'est Dommage, avec le rappeur belge Distinct. Là, on n'entend pas une seule langue, on en entend trois, je crois. Votre français, votre lingala et son arabe à lui.
Voilà, et le néerlandais aussi.
Et du néerlandais ouais, aussi. Vous dites, dans les premières secondes, « Mon cœur s'est endommagé ». Là, vous prononcez une phrase en lingala, je ne vais pas me risquer à le faire parce que ce serait un massacre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pourriez la...
Alors, ça veut dire... C'est-à-dire, « Bébé, je t'aime ». C'est ça que je dis tout simplement, « Bébé, bébé, je t'aime » et on a à deux doigts de tout gâcher.
Vous avez appris le lingala tout petit à la maison?
Naturellement à la maison, ouais. Naturellement, à force d'entendre la maman, les tantes, les cousins, la famille le parler, on apprend naturellement.
Et c'est important pour vous de l'intégrer dans vos morceaux? Ça veut dire quelque chose d'une partie de votre identité aussi?
C'est ça, une partie de mon identité aussi. Et c'est à la demande aussi de Distinct. Lui, il le fait souvent. Donc lui, il le fait souvent. Et il me disait, ce serait bien qu'on puisse mélanger ces langues. Et j'ai dit, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça sonne bien aussi, on peut le faire et on l'a fait.
Merci beaucoup, Drix, d'être venu nous parler de votre album Hacker, qui est disponible au label REC 118 depuis le 1er octobre.
Nous deux, c'est plus que dommage, mon cœur s'est endommagé. Et benalinga kayo, bébé, à deux doigts de tout gager. Nous deux, c'est plus que dommage, mon cœur s'est endommagé. كنتي تبقى دايما في قلبي Je veux que tu me comprennes 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 Ik weet niet waar het is Ik weet dat je me mist Ik heb je alle liefde beloofd Maar je hebt me uit je hart gewist Et pas pourquoi tu agis comme ça Oh yeah, bébé Begrijp niet hoe je deze stap hebt gemaakt Mijn hart is bij jou, dus ik ga achterna dis-moi, pourquoi tu agis comme ça Dis-moi, pourquoi tu agis comme ça Nous deux, c'est plus que dommage C'est endommagé Et benalinga kayo bébé A deux doigts de tout gâcher Nous deux c'est tout dommage Mon cœur c'est endommagé Quand tu t'obras des mal fait calvé Je veux que tu me comprennes yeah, yeah, yeah. Je veux que tu me comprennes Partout, t'es sur mes côtes, t'en fais pas pour ta couronne. Faudra se lever tôt. Quand je te vois, je perds le contrôle. Elle rêve de voir la vie en rose. Oh, yeah, yeah. Les hommes sont pas que des bâtards. Sache qu'on n'est pas tous les mêmes. Dis-moi, dis-moi, dis-moi pourquoi tu agis comme ça. Sache qu'on n'est pas tous les mêmes. Dis-moi, dis-moi, dis-moi pourquoi tu agis comme ça.
Dommage, Drix en featuring avec le Belge Distinct sur RFI.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec cette semaine, Marjorie Bertin, Fanny Blechner et Sébastien Gédor. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Un café gourmand qui aura un petit goût d'enfer et de paradis avec vous, Fanny.
Oui, grâce à Dante, dont nous suivrons le célèbre parcours au fil de sa Divine Comédie. Cette année, nous commémorons les 700 ans de la mort de l'auteur. Mais vous verrez que son œuvre reste un patrimoine culturel européen et qu'il a inspiré nombre d'artistes au fil des siècles.
Avec vous, Marjorie, on ira à Bobigny, en région parisienne, voir Mandela, une pièce de théâtre mise en scène par Xavier Marchand sur la vie de Nelson Mandela.
Et surtout sur ce qu'on connaît le moins de l'ancien président de la République d'Afrique du Sud, ses années de formation et ses actions avant son incarcération pendant 27 ans. Et qui étaient ses compagnons de lutte? C'est très documenté, ça dure un peu plus de 3 heures et on ne les voit pas passer.
Mais juste avant, une petite escale en Polynésie. Escale en Polynésie, c'est le titre d'un très beau livre de Titouan et Zoé Lamazou, édité par Le Vent des Îles. Lamazou, père et fille, réunis pour un ouvrage entre livre d'art et reportage, Sébastien.
Oui, alors si j'ai bien compris, c'est à moi qu'il revient aussi de vous emmener au paradis. Vous l'avez dit, il y a Titouan Lamazou, donc peintre, écrivain, navigateur, vainqueur du Vendée Globe et qui a aussi été nommé artiste pour la paix par l'UNESCO. Et puis sa fille Zoé, qui est journaliste et qui est adepte des grands formats et du temps long. Et ce livre, ce sont 300 pages de voyage dans une zone du Pacifique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la Polynésie, c'est un territoire aussi vaste que l'Europe, mais peuplé seulement de 250 000 habitants.
Ça a l'air si petit.
Ouais, ça a l'air si petit.
C'est bien
mais en fait,
si on n'aime pas trop les voisins.
Oui, voilà, c'est ça. On peut être très au calme. D'Etoua Motu au Gambier, en passant par les Marquises et Tahiti, Lamazou père peint les habitants humains et non humains, comme il dit. Donc ça veut dire qu'il peint les hommes, les femmes, mais aussi les paysages, les plantes, les récifs coralliens. Et Lamazou, elle, de son côté, elle mène des entretiens qu'elle retranscrit sans commentaire. Titouan saisit les âmes, Zoé récolte la parole. Voilà comment se définit leur duo. Et ils ont quand même quelques principes en tête et c'est Titouan Lamazou qui les énonce.
On a fait en sorte, comme ailleurs d'ailleurs dans le monde, dans nos travaux respectifs l'un et l'autre, c'est de mettre, essayer, ce qui n'est pas facile, de laisser nos idées reçues à la maison avant de partir dans cette errance. Parce que la Polynésie est chargée de poncifs. C'était l'exotisme, enfin donc depuis les premiers explorateurs européens, tels Bougainville, en francophone, ou comme les autres anglophones, ont véhiculé des idées qui sont devenues dans notre mémoire collective d'Européens, un Éden polynésien, où les femmes sont lascives, voire offertes, etc., etc., et qui sont quand même, on pourrait les qualifier d'un tissu de mensonges, mais qui sont bien ancrés dans notre mémoire à tous. Et puis on essaye de veiller aussi, ailleurs, à ne pas s'approprier, c'est-à-dire que nous sommes, en ces terres polynésiennes, nous sommes de parfaits étrangers, et on souhaite le rester.
En 1960, les missionnaires et les sœurs ont construit une vraie école pour la première fois dans l'archipel. On nous a obligés à y aller, j'avais 9 ans. Je n'avais jamais vu un stylo. Ce qu'ils nous ont fait, c'était une sorte d'effacement. Nous étions des païens, des barbares, des cannibales. Tout ce qui était marquisien était détestable.
Un témoignage parmi la centaine recueillie pour ce livre « Escale en Polynésie » de Titouan et Zoé Lamazou, qui vivent entre la Polynésie et Paris depuis plus de 30 ans.
Alors, autant dire qu'ils sont bien placés pour décrire tous les changements qu'a connus la Polynésie, qu'ils qualifient de tout monde, en reprenant l'expression du Martiniquais Edouard Glissant, c'est-à-dire une contrée isolée géographiquement, mais qui est en même temps très connectée au monde et qui est soumise à de multiples influences. Du point de vue des bouleversements récents, évidemment, on a tous en tête les essais nucléaires français. Ce sont les bouleversements les plus connus. Mais il n'y a pas que ça, rappelle Zoé Lamazou.
Je pense qu'il y a plusieurs choses depuis que Titouan est allé la première fois en Polynésie en 77. C'était précisément l'époque d'un réveil, à la fois d'un réveil culturel, notamment aux Marquises. Des instituteurs, une petite troupe de 3 instituteurs se sont mis à rechercher la mémoire de leur culture et puis à lancer un véritable élan de réveil culturel, ce qui était franchement tabou dans les années 70 déjà. Là, c'est la dimension, je dirais, culturelle, identitaire, et c'est très positif. Mais par ailleurs, il y a d'autres changements qui ont pu se produire entre-temps. C'est justement 30 ans d'essais nucléaires. Et puis, il y a une autre dimension globale qui est celle du réchauffement climatique, de l'acidification des océans, le blanchiment des coraux et la surpêche. En fait, tous les fléaux de notre monde et de notre système Terre malade qui, là-bas, se manifestent très concrètement.
Connaître l'histoire de son île, c'est toujours bien. C'est important pour dire qu'on a existé. Je dis qu'on a existé et que nos parents ont existé.
Et connaître l'histoire, justement, Sébastien, escale en Polynésie, y participe avec ses peintures et ses témoignages.
Alors, particulièrement, oui, sur les conséquences des essais nucléaires français, il y a eu 46 tirs à l'air libre, rien que sur l'atoll de Mururoa. Et puis, il y en a eu d'autres après, des tirs souterrains, cette fois à Fangatofa. Les conséquences sanitaires sont dramatiques. Il y a une épidémie de cancer dont on commence à peine à découvrir l'ampleur. Mais les conséquences sociales aussi, et ça, c'est moins connu, se font toujours sentir, souligne Titouan Lamazou.
Il y a eu un impact social. Il y a eu un bouleversement de la société polynésienne à partir de cette période où il y a eu un changement, c'est-à-dire un abandon, une sorte d'exode rural ilien, disons, parce qu'il y avait des offres d'emploi très très bien payées, dont les gens ont abandonné leur vie traditionnelle. Autrefois, par exemple, dans la plupart des îles, il n'y avait pas ce qu'on appelle les magasins, c'est-à-dire des produits importés. On vivait en parfaite autonomie. Aujourd'hui, dans certains endroits, les gens n'ont plus d'activité dans le secteur premier et sont obligés d'avoir de l'argent pour acheter des produits qui arrivent congelés de Nouvelle-Zélande ou des États-Unis ou d'Europe. Et on voit aujourd'hui une prise de conscience de ce phénomène et ce qu'on appelle un retour aux îles. Un mode de vie qui sera jamais comme autrefois tout à fait, mais un mode de vie autonome.
Avec ma femme, on est revenu sur notre île à nous. On vit de copra, c'est tout. La pêche un peu, seulement pour se nourrir, pas pour vendre. On fait des tomates, des concombres, des pastèques, des ananas. On va pas trop au magasin. Les boîtes, c'est pas tellement bon. Je préfère le poisson. Heureusement qu'on est revenu.
Retrouver son île, se reconnecter à une histoire, une spiritualité longtemps oubliée, ce sont des sujets qui reviennent souvent dans ces escales en Polynésie.
Oui, et je dirais qu'on les retrouve aussi bien dans les entretiens avec Simone, Rosa, Léon, Mémé Caro ou Mareva, on en a entendu quelques-uns ici. On les retrouve aussi dans les peintures de Titouan Lamazou, il y a ses regards tournés vers le lointain dans les portraits, il y a la nature changeante des paysages, il y a les plantes utilisées dans la pharmacopée, et puis il y a les poissons. Parce que Titouan Lamazou est un adepte de la peinture plongée. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ?
Pas du tout.
Alors la peinture plongée, voici le mode d'emploi.
C'est exactement comme la peinture de chevalet faite sur l'île, enfin à terre. Mais sauf qu'on plante un chevalet au fond de l'eau, pas très profond. On a une bouteille sur le dos et on respire l'oxygène de cette bouteille. Je me pose là et j'observe. Et je dessine avec, alors c'est tout simple, là on dessine pas avec de la peinture à l'eau. Je dessine sur des supports qui sont des toiles ou des papiers un petit peu plastifiés, donc étanches, et avec des pastels gras à l'huile, tout simplement. Et je fais des croquis sous l'eau qui me permettent d'acquérir une sorte, moi j'ai besoin de ça, mais acquérir une sorte de légitimité d'y avoir été et d'avoir vu. Et il se trouve que les petits habitants des coraux, toutes ces myriades de poissons, ils n'ont pas l'habitude qu'on les dessine, ça c'est sûr, mais au bout d'un quart d'heure, quand on est là et qu'on bouge plus, ben ils reviennent à leur activité de butineur. Donc ce temps passé est important pour moi.
Se sentir légitime, être discret et ne pas parler à la place des autres, les vertus cardinales que nous, journalistes, devrions sans doute cultiver un peu plus.
Oh là là,
je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, ce sont des vertus qu'on trouve dans ce livre, Escale en Polynésie, qui nous ouvre les portes d'un ailleurs complexe sans jamais verser dans les clichés.
Escale en Polynésie de Titouan et Zoé Lamazou, publié par les éditions Au Vent des Îles. Merci beaucoup Sébastien. C'est une œuvre culte, un fondement de la littérature européenne, alors que l'on célèbre cette année les 700 ans de la mort de Dante. Retour avec vous, Fanny, sur son écrit qui a marqué l'histoire.
La Divine Comédie, bien sûr. C'est un grand classique et comme tous les classiques, nous sommes nombreux à avoir l'impression de le connaître à peu près, sans pour autant l'avoir lu dans son intégralité. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi autour de la table. Vous avez lu La Divine Comédie ?
Absolument pas.
Ouais.
Alors moi, je ne pense pas l'avoir lu, mais je l'ai écouté parce que c'est aussi le nom d'un groupe de rock anglais. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec votre sujet.
C'est la triche.
Ah, bah, ça inspiré effectivement beaucoup d'artistes, on va y revenir. Alors quand même, petite piqûre de rappel collectif, pour moi aussi d'ailleurs. Donc la Divine Comédie, c'est un vaste poème composé par Dante Alighieri, c'est son nom complet, entre 1303 et 1321. Dante était très sensible aux chiffres. Et le résultat, c'est une composition en 33 poèmes et un total de 4233 endécasyllabes. Comprenez évidemment des vers de 11 syllabes.
Évidemment.
Alors les images convoquées ici, elles vont marquer notre imaginaire collectif, car on va y suivre Dante lui-même, qui, aidé du poète Virgile, va traverser les 9 cercles de l'enfer pour arriver au purgatoire, puis enfin au paradis, une sorte de happy end. Donc ça s'appelle une comédie, mais l'adjectif divine n'est arrivé que plus tard, nous explique Carlo Ossola, professeur honoraire au Collège de France.
Le poème s'affirmant petit à petit au cours de l'humanisme, dont le texte est déjà une annonce, eh bien alors on a voulu au XVIe siècle ajouter le titre divine dans le double sens, c'est-à-dire une comédie divine parce que c'est rédigé d'une manière sublime, et aussi une comédie qui concerne la possibilité de connaître Dieu. Et maintenant, c'est le titre éponyme et il est inutile de le changer. Dante est porté aussi par la tradition, par les commentaires, par les traductions. Et désormais, la Divine Comédie est un mythe auquel on peut toujours ajouter et difficilement on peut soustraire.
Et justement, au fil des siècles, des ajouts, il y en a eu. C'est ce dont il est question actuellement dans une exposition en Suisse, à Genève, à la Fondation Martin Bodmer, dont le professeur Jacques Berchtold est le co-commissaire.
Il n'y a aucun manuscrit autographe de Dante qui nous soit resté. Et de surcroît, il n'existe aucun manuscrit autographe sur parchemin de qui que ce soit de l'époque de Dante. Donc le plus ancien que nous ayons, il est de 1340. C'est une copie de l'Enfer et du Purgatoire avec les notes du fils de Dante. Aucun document n'a été validé par Dante. On peut dire qu'aucun texte qui a été copié, puis ensuite, après l'invention de l'imprimerie en 1452, aucun texte qui a été imprimé, qui ne soit autorisé, comme on dit, c'est-à-dire relu et vérifié par l'auteur. Donc il y a autant de textes de Dante que de partis pris et de points de vue de philologues qui se sont substitués à l'auteur disparu pour établir le texte qu'ils pensaient être le bon, être le meilleur et être idéal.
Et puis dans la tradition du traduttore traditore, on peut imaginer que les traductions à travers le monde ont aussi joué.
Oui, probablement. Il faut savoir que la Divine Comédie, sa particularité, c'est aussi qu'elle n'est pas écrite en latin. C'est le premier texte en italien, une époque d'ailleurs où il n'y avait pas une seule façon de parler italien.
L'Italie était éparpillée en 12 provinces qui parlaient 12 dialectes très différents les uns les autres. C'est Dante, on peut le dire, qui va imposer l'italien moderne à partir du toscan, mais d'un toscan tellement retravaillé et amélioré, il va finalement s'imposer comme la langue italienne du futur.
Et la Pléiade vient de publier justement la Divine Comédie avec la traduction de Jacqueline Risset sous la direction de Carlo Ossola.
Mais cette œuvre, elle va bien au-delà de l'Italie.
Oui, c'est ce qu'il explique.
Dans la langue italienne d'aujourd'hui encore, il y a des dizaines de formules, je dirais quotidiennes, sous forme presque d'adages, de sentences, qui viennent directement des vers de Dante. C'est un texte qui représente, je dirais, l'universel en nous. Ce n'est pas le poème d'un Italien qui s'adresse à ses compatriotes, à ses citoyens de Florence. C'est un poème sur la dignité de l'homme, les destins ultimes de l'humanité. Et donc, je dirais, c'est l'un des pères fondateurs de l'idée d'Europe même.
Mais Fanny, on parle quand même d'un texte du XIVe siècle, pas forcément le plus facile d'accès. En quoi est-ce qu'il reste moderne ?
Oui, bon, alors forcément, dit comme ça. Mais peut-être qu'en fait, ce texte, il nous parle davantage qu'au lecteur de l'époque de Dante.
Borges disait que nous, les contemporaines, nous comprenons mieux Dante parce que nous avons traversé ce qu'il avait prophétisé, dans le mal surtout, mais aussi dans le bien. Donc, de ce point de vue-là, Dante est plus contemporaine à nous qu'à ses contemporaines.
Et l'un des exemples les plus poignants, c'est sans doute la relation de Primo Levi, l'écrivain italien juif qui a survécu au camp d'Auschwitz grâce à cette œuvre.
c'est parce qu'il savait des poèmes entiers de Dante par cœur qu'il a supporté l'insupportable, et il raconte cette expérience suprême où il trouve un jeune compatriote analphabète et qu'il peut en toute clandestinité lui apprendre des fragments de Dante et qu'ils ont ce bonheur commun.
Alors, des écrivains inspirés par la Divine Comédie, il y en a eu beaucoup à travers les siècles. On peut citer Rimbaud, Baudelaire, John Keats, William Blake, Victor Hugo, des écrivains en exil aussi. Mais cette œuvre, plus généralement, elle a touché des artistes de tous les domaines.
Comme la musique qu'on entend en ce moment, et puis de Sandro Botticelli à Salvador Dali, en passant par le sculpteur Auguste Rodin, dont le fameux baiser a d'abord été conçu pour sa Porte des Enfers. Mmh. J'ai rencontré, on le sait pas forcément, j'ai rencontré Véronique Mattiussi, chef du centre de recherche au musée Rodin à Paris.
La relation adultère entre Paolo Malatesta et Francesca de Rimini va inspirer à Rodin le groupe du baiser. Là, les personnages sont représentés nus, sans détails, sans attributs qui permettent véritablement de les identifier. Et finalement, ce groupe ne sera pas retenu dans la Porte de Rodin parce qu'elle donne une vision peut-être trop gracieuse, trop heureuse, et elle ne trouve pas sa place dans cette espèce de capharnaüm, de chaos géant que représente la Porte de l'Enfer.
Notez donc que la Fondation Rodin à Paris, elle organise vendredi prochain une journée d'études à l'auditorium où il sera question de l'influence actuelle de Dante dans tous les arts. Et sachez que même des jeux vidéo font appel aux images convoquées dans la Divine Comédie.
Merci beaucoup Fanny.
La seule chose que m'a donné mon père à la naissance haïtienne, Roli Lala. En Kosa, Roli Lala signifie littéralement tirer la branche d'un arbre. Mais dans la langue courante, sa signification plus précise est celui qui crée les problèmes. Je ne crois pas que les noms déterminent la destinée, ni que mon père ait deviné mon avenir d'une façon ou d'une autre, mais plus tard, des amis et des parents attribueront en plaisantant à mon nom de naissance les différentes tempêtes que j'ai déclenchées et endurées.
Un extrait de Mandela, la pièce dont vous allez nous parler, Marjorie. Le bruit de la tempête en arrière-plan, c'était celui de Robben Island, l'île sur laquelle fut incarcéré Nelson Mandela.
Oui, et c'est aussi métaphorique. Quoi de mieux que la tempête pour illustrer la vie tumultueuse et le combat d'une icône à la volonté invincible? Mandela montre comment l'enfant du Veld, amoureux de la nature, destiné à devenir chef de tribu, est devenu le leader de la Ligue antiségrégationniste. Et en 1994, le premier président noir de l'histoire après plus de 10 000 jours en prison.
Toute ma vie, j'ai lutté contre la domination blanche. J'ai lutté contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle tout le monde vivrait en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal auquel je souhaite consacrer ma vie et voir se réaliser de mon vivant.
Alors, c'est un spectacle écrit par Olivia Burton et Xavier Marchand à partir de deux récits de Madiba, Un long chemin vers la liberté, son autobiographie qu'il avait écrite en secret, en petits morceaux qui avaient été cachés par ses amis dans des bouteilles de coca vides lorsqu'il était en prison. Et conversation avec moi-même.
Donc c'est pas une pièce de théâtre au départ?
Ah, au départ non. Alors on emprunte les chemins du théâtre documentaire. Il y a une grosse matière autobiographique et historique, des archives projetées sur grand écran, une fausse consoeur sur scène qui interroge Nelson Mandela et ses compagnons pour découvrir leurs actions, évidemment leurs stratégies aussi.
Et qui est-ce qui joue Mandela, justement?
Ben alors, grande originalité, ils sont deux. Et très honorés, évidemment, de jouer ce rôle, le Congolais Dadi Kamono Wanda et le Burkinabé Lazare Minungu.
Ça nous parle en tant qu'Africain d'abord, et après en tant que comédien. Donc, jouer Nelson Mandela, c'est flatteur. Et pour nous, c'est un challenge.
Raconte l'histoire de Mandela. Et petit à petit, on fait en sorte que l'image apparaisse. Et en plus de ça, c'est qu'on soit porteur de son souffle.
Alors c'est un souffle en partage, donc c'est aussi une manière de se répartir un texte très dense pendant plus de 3 heures. Il y a très peu de décors, quelques chaises, des tables. Les comédiens sont davantage narrateurs qu'acteurs, si vous voulez, et on écoute Mandela comme un conte, un choix judicieux pour Lazare Minungu, qui est par ailleurs un griot, un conteur formidable.
Pour moi, la dimension théâtrale apporte un plus à l'histoire de Nelson Mandela. C'est vrai que c'est prétentieux en tant que comédien de vouloir porter un personnage de cette facture, mais je pense que c'est intéressant de pouvoir capter une partie de la dimension de la grandeur de ce héros. Voilà, un héros comme ça, c'est un mythe. Et le conte rentre dans une sorte de mythologie. Le conte, c'est un truc imaginaire. Et donc, on peut comprendre que Nelson Mandela, sa lutte a été tellement grande qu'on peut croire que c'est une légende presque.
Presque une légende. Dans Mandela, quatre comédiens sont sur scène et jouent des rôles interchangeables. Cela attise l'attention du spectateur, ça souligne l'importance accordée au groupe aussi, prôné par Xavier Marchand pour faire du théâtre, mais c'est aussi lié à la vie de Mandela.
D'abord, je ne tenais absolument pas à en faire un biopic. Cette écriture, c'est une suggestion de ses camarades de détention, Walter Sisulu et Ahmed Kathrada. Et le livre atteste, comme il le dit lui-même, que seul, il n'aurait probablement rien pu faire. C'est une lutte collective, aussi bien la lutte proprement dite, que d'avoir résisté si longtemps en prison. Et l'on sait, et j'en me réfère à Germaine Tillon, qui disait déjà à l'époque, que dans des telles conditions, ce qui fait tenir, c'est les principes d'amitié.
Alors évidemment, ce que l'on voit aussi du leader, ce sont donc ses compagnons de lutte comme Oliver Tambo, Ahmed Kathrada, son mentor Walter Sisulu ou encore Denise Goldberg. Le spectacle est captivant historiquement. On découvre par exemple comment et pourquoi, je ne sais pas si vous saviez, Mandela a concédé à la création de la MK, la branche armée du Congrès National Africain, plus connu sous le nom d'ANC, sa clandestinité aussi pendant 17 mois, son rapport au sabotage, ses plaidoiries.
Oui, car Mandela était avocat.
Oui, justement, on apprend beaucoup de ses relations avec ses confrères juifs qui furent des soutiens importants. La création du premier cabinet noir en Afrique du Sud aussi. La création du premier cabinet d'avocats noirs en Afrique du Sud aussi. Et sur la détermination invincible de celui qui deviendra le prix Nobel de la paix malgré des sacrifices déchirants.
Dès ma libération, j'avais désiré aller à Kounou me recueillir sur la tombe de ma mère. Il m'est difficile de décrire ce que j'avais ressenti. Le regret de n'avoir pu être là au moment de sa mort. Le remords de n'avoir pu m'occuper d'elle pendant sa vie. La nostalgie de ce qu'aurait été la vie si j'avais choisi un autre chemin. It's too late to regret.
What is gone. Un chemin national et personnel, donc rappelons que Nelson Mandela vota pour la première fois à l'âge de 76 ans.
Ah ben oui. Mandela par Xavier Marchand, ce soir et demain à la MC93 de Bobigny en région parisienne, puis en tournée les 21 et 22 octobre à la Maison de la Culture d'Amiens et les 13 et 14 novembre au Théâtre de la Joliette à Marseille. Merci Marjorie. Et merci à Sébastien, Fanny, Baptiste, Guillaume et Yasmine qui ont préparé et réalisé cette émission. Lundi, nous recevrons Juanjo Guarnido dans VMDN, le dessinateur de la saga de bande dessinée Black Sad, qui est de retour après 8 ans d'absence. On se quitte avec la douce voix de Nina Simone, Tomorrow is my turn sur RFI. Though some may reach for the stars, others will end behind bars. What the future has in store, no one ever knows before. Yet we would all like the right to find the key to success. That elusive ray of light that will lead to happiness. Tomorrow is my turn, no more doubts, no more fears. Tomorrow is my turn when my luck is returning. All these years I've been learning to save fingers from burning. Tomorrow is my turn, no more doubts, no more fears. Tomorrow is my turn to receive without giving. Make life worth the living, now it's my life I'm living. And my only concern for tomorrow is my turn.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.
RFI, la sélection.